Bienvenue sur le podcast Art de vivre. Je suis Daphné Moreau, entrepreneuse passionnée de bien-être et de développement personnel. Depuis plus de 15 ans, je partage mes conseils, mes découvertes et mes challenges auprès de ma communauté, sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Art de vivre, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mentale. Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour! Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous cette semaine. Je suis de retour chez moi dans mon petit studio d'enregistrement à la maison après un mois passé à Amsterdam et je suis absolument ravie d'être de retour. En plus, le printemps est en train de pointer le bout de son nez, donc moi j'ai toujours l'impression de revivre à cette saison. Ça me fait un bien fou, j'espère que vous allez bien aussi de votre côté. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder ensemble un sujet qui est revenu très souvent lorsque je vous ai demandé quelle thématique vous aimeriez que j'aborde dans mes prochains épisodes, qui est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous vous dites parfois que tout ce que vous avez accompli dans votre vie est uniquement le résultat d'une pure coïncidence ou bien le produit de la chance, en minimisant totalement vos propres compétences ainsi que tout le travail que vous avez fourni pour en arriver là où vous êtes ? Est-ce que vous avez du mal à reconnaître et revendiquer vos forces, vos compétences, vos qualités, ou bien du mal à accepter les éloges et les compliments ? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être incompétent, incompétente, avec la peur d'être démasqué à tout moment ? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul, et cette façon de penser a un nom, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi exactement ? C'est un phénomène psychologique qui reflète la croyance que l'on est incompétent, incompétente, inadapté, malgré des preuves du contraire. C'est un sentiment de doute permanent et presque maladif par rapport à ses propres compétences, en allant parfois jusqu'à nier tout accomplissement personnel en attribuant au contraire son succès à des facteurs extérieurs, ça peut être la chance, les relations, le hasard, des circonstances particulières, etc. Quand on a le syndrome de l'imposteur, on va être dans la remise en question permanente de nos propres capacités et compétences. On va être très critique envers nous-mêmes. On a cette croyance internalisée qu'on ne mérite pas notre succès et qu'on en est là où on en est, comme je vous le disais, par hasard, par chance, grâce à une coïncidence. On a cette mentalité de tout ou rien avec un rejet de l'idée du work in progress, donc l'idée d'être en train de construire quelque chose qui n'est pas encore terminé, qui n'est pas encore parfait. On a la croyance qu'on n'est pas assez bien, ce qui va très souvent nous générer un manque de confiance en nous. On va avoir tendance à porter toute son attention sur les défauts, sur les erreurs. On va aussi avoir du mal à accepter les éloges ou les compliments et même entendre des retours positifs. Ça va nous apporter qu'un soulagement très ponctuel avant que le syndrome de l'imposteur ne pointe à nouveau le bout de son nez. On va aussi vivre dans cette peur d'être démasqué, la peur que quelqu'un enfin se rende compte que finalement on n'a pas notre place là où on est, qu'on ne mérite pas notre succès, qu'on n'est pas à la hauteur, que notre reconnaissance, notre job, notre situation sont une fois de plus le produit de pure chance, coïncidence. Et enfin, on va avoir tendance à rester dans sa zone de confort plutôt que d'aller dans sa zone de croissance parce qu'on va éviter de prendre des risques et ainsi se priver d'opportunités. La première chose à savoir, c'est que ce phénomène de syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose de très commun qui touche la grande majorité d'entre nous à un moment ou un autre dans notre vie. On a tous et toutes l'impression que tous les gens autour de nous sont parfaitement équilibrés, ont la tête bien sur les épaules, se sentent bien dans leur peau, ont confiance en eux, ne se posent pas de questions et que nous, au contraire, on est complètement paumés, incompétents ou pas assez bien, etc., etc. En faisant mes recherches, j'ai découvert le travail de Valerie Young, qui est une auteure américaine et experte du syndrome de l'imposteur. Elle a même créé l'Institut du syndrome de l'imposteur, que je ne connaissais pas, mais son travail est très intéressant. Et elle décrit notamment 5 grandes catégories de personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur. J'ai trouvé cette distinction vraiment passionnante. Donc, je vais vous les lister et ça pourra peut-être vous éclairer pour savoir là où vous vous situez. Et je vous partagerai moi aussi là où je me place et ce qui a résonné pour moi. Donc, la catégorie numéro 1, c'est les experts. Donc les experts, ils ne sont jamais satisfaits par leur niveau de compétences et de connaissances. Ils ont l'impression de devoir toujours apprendre plus pour pouvoir enfin se sentir légitimes. Donc ils vont avoir des pensées du type « je dois connaître chaque petit détail avant de pouvoir commencer quoi que ce soit ». Ça va être par exemple des profils qui ne vont jamais postuler à une offre d'emploi s'ils ne remplissent pas absolument tous les critères. Ça va aussi être des profils qui ne vont pas prendre la parole ou poser de questions dans un contexte de groupe. Donc ça peut être des réunions professionnelles par exemple ou à l'école, par peur justement de paraître bête ou ignorant. La catégorie numéro 2, c'est les perfectionnistes. Les perfectionnistes, ils ne sont jamais entièrement satisfaits par leur travail. Ils se concentrent sur les défauts et les points négatifs plutôt que sur les points forts et les atouts. Et pour eux, même la plus petite des erreurs sera toujours une bonne occasion de remettre en question leurs compétences et leurs valeurs. La catégorie numéro 3, c'est les génies naturels. Alors eux, ils vont se dire que si on a du talent et qu'on est fait pour quelque chose, alors on ne devrait jamais rencontrer de difficultés quand on accomplit des tâches. Et au contraire, si on doit fournir des efforts, ça prouve qu'on est un imposteur et qu'on n'est pas fait pour ce qu'on est en train de faire. La quatrième catégorie, c'est les solistes. Alors eux, ils vont préférer travailler seuls parce qu'ils voient le fait de demander de l'aide comme un aveu de faiblesse ou d'incompétence. Pour eux, demander de l'aide, ça prouve qu'ils sont un imposteur et qu'ils sont pas capables de faire le travail seuls. Ils ont des pensées du type « c'est seulement en travaillant tout seul que je vais pouvoir prouver que je ne suis pas incompétent, incompétente, sinon les gens vont penser que je me repose sur les autres ». Et la cinquième et dernière catégorie, c'est les Superman, Superwoman. Donc eux, ils vont se surcharger de travail pour compenser leur sentiment d'inadéquation. Ils se disent des choses du type « je dois travailler plus dur que quiconque pour prouver que je ne suis pas un imposteur ». Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces catégories ? Est-ce qu'il y a des modes de pensée ou des modes de fonctionnement que vous adoptez dans votre propre vie et que vous avez reconnus dans ces différentes catégories ? Personnellement, je me suis beaucoup retrouvée dans la catégorie 1, donc les experts, avec ce besoin d'avoir toutes les données, toutes les informations pour me sentir prête à faire quelque chose. Quand je prépare un épisode de podcast, par exemple, je suis vraiment obligée de consciemment m'arrêter, de chercher plus d'informations, de lire plus d'articles, de regarder plus de vidéos, parce que je sais qu'au fond de moi, j'ai cette pensée que pour prendre la parole sur un sujet, il faut absolument que je sache tout à propos de ce sujet. Et finalement, quand je suis encore en train de faire mes recherches, c'est un espace dans lequel je me sens assez en sécurité. C'est ma zone de confort dans laquelle je ne prends pas de risques puisque je suis juste en train de consommer de l'information, du contenu et je ne suis pas en train de produire quelque chose. Donc, je ne peux, entre guillemets, rien faire de mal. Alors que quand, au contraire, je suis en train de créer du contenu, en train de d'écrire ou d'enregistrer mon podcast, c'est là que mon syndrome de l'imposteur et mon perfectionnisme peuvent se faire ressentir en me disant justement que je ne suis pas assez experte pour parler de ce sujet, qu'il faudrait que je fasse encore plus de recherches, que si j'ai besoin d'ailleurs de faire une quelconque recherche sur un sujet, c'est bien la preuve que je ne suis pas légitime pour en parler. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai conscience et je suis vraiment dans une posture d'observation face à ça. Donc je sais que c'est en train de se jouer dans mon esprit parfois et du coup, j'ai des outils pour un peu contrecarrer ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué plusieurs fois chez moi. La quatrième catégorie des solistes, donc le fait de préférer travailler seul et de voir le fait de demander de l'aide comme un aveu de faiblesse, c'est quelque chose qui n'est plus une de mes réalités aujourd'hui, mais qui l'a beaucoup été par le passé, où j'avais beaucoup de mal à déléguer et mon mantra dans la vie, c'était « jamais mieux servi que par soi-même ». C'est vraiment une croyance de laquelle je me suis défaite, mais qui était très forte pour moi à une période de ma vie. Et bien sûr, la catégorie des perfectionnistes m'a aussi pas mal parlé avec cette tendance à se concentrer sur les défauts et les points négatifs plutôt que sur les points forts et sur les atouts. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur mon perfectionnisme ces dernières années. Donc, je sais que c'est une tendance qui est un petit peu en dormance chez moi maintenant, mais qui était très forte, vraiment presque maladive à une période de ma vie. Mais je sais que voilà, il y a toujours quelques petits restes un peu sous-jacents qui sont là. Et c'est vrai que j'ai cette tendance à toujours voir les points négatifs ou à améliorer. Mais maintenant, j'essaie vraiment de les contrebalancer. Donc, d'être à la fois en capacité de voir les points d'amélioration, les points potentiellement négatifs. Mais je me force aussi à regarder les points forts, les points positifs et ce qui est déjà bien fait. Alors pourquoi ce syndrome de l'imposteur nous gâche la vie, nous gâche le quotidien et au final est plutôt mauvais pour nous ? De manière générale, le syndrome de l'imposteur va avoir tendance à nuire à notre performance et notre santé mentale en contribuant notamment à la procrastination, à l'anxiété, à l'auto-sabotage ou même au burn-out. Les gens qui font face au syndrome de l'imposteur souvent vont manquer de confiance en eux, ne se sentent pas à leur place, pas à la hauteur et vont donc avoir une faible estime d'eux-mêmes en général. Les gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur vont aussi avoir tendance à se limiter eux-mêmes, à ne pas prendre de risques et donc à passer à côté d'opportunités. Autant de choses qui vont nous empêcher d'aller dans notre zone de croissance et de développer notre propre potentiel. Alors maintenant qu'on a identifié si oui ou non on faisait régulièrement l'expérience du syndrome de l'imposteur, qu'on a peut-être réussi à voir dans quelle catégorie d'imposteurs on se classait, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier ? Donc comme toujours, je vous ai compilé une liste de conseils. Donc là, j'ai 7 conseils et techniques pour vous pour sortir de ce doute perpétuel et revendiquer pleinement nos compétences et nos accomplissements. Le premier conseil que je pourrais vous donner pour surmonter le syndrome de l'imposteur, c'est d'observer ses pensées et de les remettre en question. On a tous et toutes des dizaines de milliers de pensées chaque jour et certaines de ces pensées peuvent parfois être toxiques, dures et pleines de jugements. On se dit très souvent à soi-même, dans sa tête, des choses qu'on ne dirait jamais à quelqu'un d'autre et on se traite souvent bien plus durement qu'on ne traiterait quiconque d'autre. C'est très intéressant de prendre le temps d'examiner les pensées qui sont présentes dans notre esprit. Quelles sont ces pensées ? Qu'est-ce que nous dit cette petite voix dans notre tête ? Qu'est-ce qu'on se répète régulièrement ? Une fois de plus, je vais vous parler de l'écriture dans un journal qui est un outil hyper précieux pour justement enquêter un peu sur ce qui se passe dans notre esprit. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'écriture dans un journal parce que j'ai justement enregistré un épisode dédié au journaling il y a quelques semaines. Je vous remettrai le lien dans les notes de cet épisode, mais je vous y donne en tout cas plein d'idées, de questions à se poser, d'amorces qui seront justement très utiles pour révéler vos pensées. En tout cas, une fois qu'on a identifié certaines des pensées qu'on a dans notre esprit, que ce soit via l'écriture dans un journal ou autrement, moi, j'aime toujours remettre en question ces fameuses pensées en me demandant « est-ce que j'ai des preuves du contraire ?» Je vous donne un exemple. Si je m'aperçois que j'ai régulièrement la pensée « je ne suis pas compétente, de toute façon, j'ai sûrement eu ce job uniquement parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats plus qualifiés que moi et qu'ils ont été obligés de me choisir. » À partir du moment où on va se poser cette fameuse question « est-ce que j'ai des preuves du contraire ?», on va venir introduire le doute dans nos pensées et on va pouvoir commencer à remettre en question cette pensée qu'on avait qui était « je suis incompétente ». On va commencer à se dire « peut-être que j'exagérais un peu, je ne suis pas incompétente ». Oui, j'ai beaucoup de compétences. C'est vrai que dans mon dernier bilan avec mon manager, il ou elle m'a dit être très satisfaite de mon travail sur beaucoup de points. Oui, j'ai aussi eu des pistes d'amélioration, mais il y avait aussi plein de positifs. Et on va pouvoir commencer à lister tout ça. Vous voyez l'idée ? C'est vraiment d'introduire le doute et de chercher des preuves du contraire. Moi, c'est personnellement une question que je me pose tout le temps quand j'écris dans mon journal et sur plein de thématiques différentes. Donc soit, est-ce que j'ai des preuves du contraire ? Ou parfois, très simplement, est-ce que c'est vrai ? Parce que j'ai des tas de pensées, de doutes et négatives. Et à partir du moment où je me demande si ces pensées sont vraiment vraies, souvent, je remets les choses quand même en perspective et ça m'aide à voir au-delà de mes pensées limitantes. Mon deuxième conseil, ce serait d'arrêter de penser comme un imposteur. La différence entre les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur et celles qui n'en souffrent pas réside grandement dans la qualité de leurs pensées. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez une présentation importante à faire pour votre travail, mais que vous ayez attendu la dernière minute pour la préparer. Du coup, vous la faites en 2 heures la veille, et le lendemain, votre présentation se passe super bien, vous avez plein d'éloges, plein de compliments. Quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur va se dire « Non mais c'était juste une présentation à la va-vite que j'ai fait à la dernière minute, j'aurais pu faire tellement mieux si je m'y étais pris avant, autrement. » Et quelqu'un qui n'a pas le syndrome de l'imposteur va plutôt se dire « Non mais je suis tellement compétent, compétente que j'ai réussi en seulement 2 heures la veille à rédiger une présentation qui a apporté de la valeur à toute mon équipe. » Vous voyez la différence ? Donc c'est vraiment un super exercice d'essayer de se reprendre quand on se rend compte qu'on pense comme un imposteur et de justement réfléchir à comment, au contraire, on pourrait penser différemment comme quelqu'un qui ne se sent pas comme un imposteur. Et ça marche, croyez-moi, j'en ai vraiment fait l'expérience. Pendant très longtemps, j'avais tendance à minimiser ce que j'ai construit avec mon blog, mes réseaux sociaux, ma newsletter, maintenant mon podcast, en me disant que j'avais eu de la chance, que j'avais créé mon blog en 2007, à l'époque où il y en avait très peu et que du coup j'avais facilement pu sortir du lot, etc., etc. Alors, il y a peut-être une part de vérité dans tout ça, que j'étais en effet au bon endroit, au bon moment, mais si 17 ans plus tard, je suis toujours là, c'est pas uniquement grâce à la chance. Et je le sais, même si c'est toujours un peu inconfortable aussi de le dire à voix haute. Mais en tout cas, j'ai vraiment arrêté il y a quelques années de dire que j'étais là où j'étais par chance. Par exemple, quand j'ai lancé mon podcast, ça m'est arrivé plusieurs fois de m'entendre dire « j'ai de la chance, j'ai eu des écoutes tout de suite parce que j'ai déjà une présence, une visibilité sur les réseaux sociaux ». Mais est-ce que c'est vraiment de la chance ? Ou est-ce que c'est le résultat d'un investissement que je fournis au fil des années depuis 17 ans ? Donc je pense que vous avez compris l'idée, mais en arrêtant de penser comme un imposteur, on multiplie ses chances de ne plus se sentir comme un imposteur. Mon troisième conseil, ce serait de se connecter aux autres et de partager ses ressentis. C'est pas forcément quelque chose qu'on va faire facilement, mais communiquer ouvertement sur nos propres doutes, nos propres difficultés, de manière vulnérable, ça va avoir un impact hyper fort et ça va permettre de normaliser cette idée de syndrome de l'imposteur et de se rendre compte qu'on n'est pas seul à ressentir ça. Échanger avec honnêteté et vulnérabilité avec des collègues, des amis, des mentors qui, très certainement, ont déjà fait l'expérience du syndrome de l'imposteur et qui partagent certains de nos ressentis, ça va nous apporter du soulagement et ça va nous permettre de nous connecter à notre humanité partagée, finalement. Je suis sûre que vous avez déjà fait l'expérience plusieurs fois de partager quelque chose d'un peu, voilà, un peu personnel, un peu vulnérable avec quelqu'un et que la personne en face de vous vous dise « Oh, mais je vois exactement ce que tu ressens. Moi aussi, je ressens ça. Oh, » Tout de suite, on pousse à un soupir de soulagement en se disant « Oh, je suis pas seule, il y a d'autres personnes qui ressentent ça aussi. » Et par exemple, prendre la parole sur le syndrome de l'imposteur dans ce podcast et vous partager un petit peu, moi, mon expérience personnelle avec le syndrome de l'imposteur, bah, c'est aussi un moyen de montrer que bah, voilà, ça nous arrive à tous. Et dans cet épisode, je vous donne des conseils pour vaincre le syndrome de l'imposteur. Mais moi aussi, parfois, j'ai le syndrome de l'imposteur. Échanger avec les autres, que ce soit avec des amis, des collègues, des mentors, ça va aussi pouvoir vous permettre de vous offrir une vision plus objective de vos véritables compétences, de vos points forts et pourquoi pas aussi de vos faiblesses qui sont peut-être pas forcément celles que vous pensez. Mon quatrième conseil, ce serait d'accepter d'être en cours d'apprentissage. Donc c'est un peu cette thématique de work in progress dont je parlais au début de cet épisode. Parce qu'une autre différence majeure entre les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur et celles qui n'en souffrent pas, c'est la manière dont elles abordent les défis. Quand on a le syndrome de l'imposteur, on a tendance à avoir une vision tout ou rien et on a justement du mal avec cette notion d'être en train d'apprendre quelque chose, d'être en cours d'apprentissage et de ne pas être tout de suite, entre guillemets, parfait ou parfaite. Accepter que le fait de ne pas savoir comment on fait quelque chose ou d'avoir besoin de clarification ou d'aide, de ne pas être en permanence 100% sûr de soi sur un sujet, ne sont pas des signes d'incompétence ou de manque d'intelligence, mais au contraire, font partie intégrante du processus d'apprentissage. Mon cinquième conseil, ce serait de repenser l'échec et d'adopter une mentalité de croissance. Un conseil précieux pour vaincre le syndrome de l'imposteur, c'est de repenser cette notion d'échec. Tous les échecs ne mènent pas forcément au succès, mais le succès est difficilement possible sans un minimum d'échecs. Plus on échoue, plus on apprend, plus on a de chances d'avancer et de réussir à aller là où on veut aller. Surmonter les échecs, ça va nous permettre d'évoluer en tant que personne, mais c'est en général quelque chose avec lequel la majorité d'entre nous a beaucoup de mal, moi la première. Donc ici, la croyance à adopter finalement, c'est que l'apprentissage et la croissance viennent surtout de l'expérience et pas uniquement du succès. Alors ça me fait penser à un exemple personnel. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, j'ai créé en 2020 une marque de prêt-à-porter féminin éco-responsable avec mon mari Vincent, qui s'appelait Solstice Édition. Et on a décidé d'arrêter cette marque 2 ans plus tard, en 2022. Avant, le fait d'arrêter notre marque, même si c'était un choix, c'est vraiment quelque chose que j'aurais perçu comme un échec et peut-être même que je n'aurais pas osé arrêter cette marque de peur que ce soit perçu comme un échec. Mais quand on a arrêté Solstice, c'est vraiment la première fois où j'ai réussi à sincèrement, honnêtement, repenser la fin de ce projet comme une expérience et comme un apprentissage plutôt que comme un échec. Quand j'y repense aujourd'hui, je vois vraiment tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris sur moi aussi, ce que j'aimais faire, ce que je n'aimais pas faire, ma manière de travailler. Mais je sais que si je n'avais pas fait tout ce travail sur moi-même que je fais depuis des années, j'aurais très facilement pu voir la fin, l'arrêt de cette marque comme un échec, comme quelque chose dont j'aurais pu avoir honte. Ce qui prouve bien, une fois de plus, que c'est la qualité de nos pensées qui va déterminer nos émotions et notre expérience. Mon 6e conseil, ce serait d'éviter de se comparer aux autres. Avec l'essor des réseaux sociaux, c'est d'autant plus facile de se comparer aux autres aujourd'hui et d'avoir l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. On le sait tous et toutes, mais je crois que ça vaut toujours la peine d'être répété. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas un reflet représentatif de l'intégralité de la vie d'une personne qu'on suit. Au contraire, on a accès à des extraits, des moments choisis dans lesquels les personnes qu'on suit vont plutôt se montrer sous leurs meilleurs jours de manière générale. La comparaison, c'est une habitude qui n'est jamais saine ni productive. S'inspirer, oui, se comparer, les effets sont souvent beaucoup plus négatifs. Donc, ce qui va être bien plus utile pour nous, au lieu de regarder les autres et d'idéaliser leurs compétences, leurs accomplissements, ça va être de se concentrer sur nos propres forces et nos propres habitudes. Ce qui m'amène à mon 7e et dernier conseil, et sûrement l'un des plus importants, qui est de reconnaître et revendiquer ses compétences et ses accomplissements. Ça vous mettra peut-être extrêmement mal à l'aise, mais faites une liste, idéalement par écrit, de toutes vos qualités, de toutes vos compétences, de tous vos accomplissements, tous les éloges qu'on vous a jamais faits. Peut-être que vous penserez plus facilement à des choses liées au domaine professionnel, mais pensez aussi à lister tout dans votre vie, tout ce que vous estimez être une qualité ou un accomplissement. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez aussi sonder vos proches, vos amis et voir quelles sont, selon eux, vos qualités, vos forces, vos atouts, vos compétences, vos accomplissements. Vous verrez qu'on a souvent beaucoup de facilité à faire la liste de nos défauts ou de tout ce qu'on aurait pu faire de plus, de mieux, plus vite, tout ce qu'on n'a pas accompli. Mais curieusement, c'est beaucoup plus difficile de faire la liste de ses qualités, de ses forces, de ses accomplissements. Et une fois que vous avez dressé votre liste, relisez-la en pleine conscience. Reconnaissez, savourez et revendiquez tous ces accomplissements qui sont les vôtres, toutes ces qualités, toutes ces forces qui sont les vôtres. Célébrez et soyez fiers de qui vous êtes. Donc moi, j'avoue, je me suis fait ma petite liste de mon côté que j'ai gardée juste pour moi, secrète. Mais j'avoue que cet exercice de faire cette liste de ses qualités, de ses forces, de ses compétences, de ses accomplissements, ça met un petit boost au moral quand même. Et quand on a une petite période de syndrome d'imposteur, je me dis que c'est pas mal d'avoir peut-être une note dans son téléphone dans laquelle on a cette liste pour justement se redonner un petit boost. Et quand on a des pensées qui nous viennent avec cette impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à sa place, de ne pas faire assez ou d'être un imposteur, d'être là par hasard, et ben je pense que ça fait du bien de relire cette petite liste. Donc moi, c'est une liste que je vais garder épinglée bien au chaud dans mon téléphone et que j'essaierai de relire de temps en temps. Voilà, c'est terminé pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura reboosté, en vous rappelant qu'on fait quasiment tous et toutes l'expérience du syndrome de l'imposteur à un moment ou à un autre dans notre vie. Mais c'est une certitude que vous avez du talent, des compétences, que vous n'êtes pas là où vous êtes par hasard, que vous êtes à la hauteur. Donc faites-vous confiance. Si cet épisode vous a plu, je vous invite aussi à écouter ou à réécouter mon épisode récent sur comment passer de sa zone de confort à sa zone de croissance. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. C'est un épisode qui est assez complémentaire à celui-ci et qui vous donnera, je pense, d'autres clés, d'autres pistes de réflexion. Comme toujours, si vous avez envie d'échanger avec moi ou de me faire part de vos recommandations complémentaires, n'hésitez pas à m'écrire à podcast@daphnemoreau.fr. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode si vous l'avez aimé ou à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Et comme toujours, je vais clôturer cet épisode de podcast avec mes deux coups de cœur et découvertes de la semaine. Mon premier coup de cœur, c'est le podcast 50 States que j'ai commencé à écouter la semaine dernière. Et vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Donc malgré son titre en anglais, le podcast est bien en français et chaque semaine sort un nouvel épisode dédié à un État des États-Unis. Donc au total, il y aura 50 épisodes pour les 50 États des États-Unis. La production et le montage sont hyper chouettes, c'est super vivant, super fun et ça parle d'histoire, de politique, de cinéma, de musique avec plein d'anecdotes et de fun facts. J'ai déjà dévoré tous les épisodes disponibles. Donc au moment où j'enregistre ce podcast, c'était les épisodes sur la Californie, le Kentucky, le Wyoming et la Pennsylvanie. Et j'ai appris plein de choses. C'est un format de podcast qui est assez court, vraiment hyper plaisant à écouter. Donc je vous le recommande chaudement. Mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur cinéma. Le week-end dernier, Vincent et moi, on est allés voir Dune, partie 2 de Denis Villeneuve. Et on a absolument adoré. On avait vraiment beaucoup aimé la partie 1 sortie en 2021 et sans surprise, on en a pris plein les yeux et plein les oreilles pendant les 2h45 de ce deuxième volet. Le casting est impeccable, le film vraiment sublime visuellement, la bande-son de Hans Zimmer est absolument exceptionnelle, l'intrigue est hyper riche et encore plus fascinante que celle du volet 1, j'ai trouvé. Le rythme du film parfaitement calibré, c'est intense, on ne s'ennuie pas. Bref, c'est une vraie épopée de science-fiction que j'ai adorée. Si vous avez la possibilité de le voir en IMAX, je vous recommanderais vraiment de le faire. Moi, j'avoue que dès que je peux aller voir un film en IMAX, je le fais toujours. Quand on aime le cinéma, c'est vraiment une expérience qui est hyper immersive. Vous avez un écran qui est beaucoup plus grand qu'un écran de cinéma classique, qui est incurvé sur les côtés. Donc, vous avez vraiment tout votre champ de vision qui est occupé par le film. La qualité du son et de l'image est vraiment supérieure aussi à une expérience de cinéma classique. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans le film. Et je trouve qu'à l'ère du streaming et des séries, films qu'on regarde beaucoup chez nous sur de petits écrans. Et bien sûr, c'est hyper chouette aussi. Mais ça me rappelle quand même combien j'aime aller au cinéma. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier, ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast@daphnemoreau.fr.